La Sociale Le Mag, un podcast de la Cour de cassation. La jurisprudence de la Chambre sociale, racontée par ceux qui la font.
Chers auditeurs, dans ce troisième numéro spécial de la Fabrique de l'Arrêt, nous donnons la parole au président et au doyen de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Bonjour Jean-Michel Sommer, président de la Chambre sociale.
Bonjour Anne Bérard, conseillère à la Chambre sociale.
Bonjour Jean-Guy Glot, doyen de la Chambre sociale.
Bonjour Madame la conseillère référendaire Cléa Prieur.
Avant d'aborder les fonctions du président et du doyen, plantons d'abord le décor. Monsieur le président Sommer, pouvez-vous, en quelques chiffres, nous présenter la Chambre sociale de la Cour de cassation ?
Oui, cette chambre est l'une des 6 chambres de la Cour de cassation qui traite des affaires de droit du travail. Elle est saisie chaque année de quelque 4000 pourvois et rend à peu près 3000 décisions par an, cette différence de chiffres s'expliquant par des séries de pourvois qui opposent parfois de nombreux salariés à une même entreprise. En raison du nombre des affaires qu'elle juge, soit plus d'un tiers de celles enregistrées à la Cour de cassation en matière civile, notre chambre dispose de l'effectif le plus important, 43 conseillers et conseillers référendaires sur environ 170 magistrats du siège. Le parquet général de la chambre est quant à lui composé de 9 magistrats. Enfin, le greffe, animé par une directrice de greffe, est composé d'une vingtaine de greffiers et d'agents. Sans oublier l'équipe autour du juge qui monte en puissance depuis près de 2 ans avec des juristes assistants en lien avec le service de documentation, des études et du rapport de la Cour de cassation.
Et c'est vous, Monsieur le Président, qui affectez les conseillers et les conseillers référendaires dans les différentes sections. Et je précise que chaque section est animée par un doyen de section, le plus ancien d'entre eux étant le doyen de la Chambre, actuellement Jean-Guy Huglot, qui est également doyen de la Cour.
En effet, et la Chambre sociale est divisée en 4 sections, ayant chacune leur spécialité. Pour la première, le droit économique du travail, le licenciement disciplinaire, les libertés fondamentales et la procédure prud'homale. La deuxième section est en charge du contentieux, de la négociation et des conflits collectifs, des élections professionnelles, ainsi que du droit européen, international et public du travail. La troisième section traite les pourvois relatifs à l'existence d'un contrat de travail, comme la question des travailleurs de plateforme, ainsi que le droit à la santé du salarié. La quatrième et dernière section se voit attribuer l'ensemble des questions liées à la rémunération et à la durée du travail, ainsi que les contrats spéciaux.
Alors, quel est précisément le rôle du président de la Chambre ?
Le président est un administrateur-juge, ou plutôt un juge-administrateur. Ses fonctions comportent un volet administratif et un volet juridictionnel. C'est lui qui préside les formations où sont traités les dossiers les plus importants, qui sont dédiés au premier chef à la recherche de l'unité et de la cohérence de la jurisprudence. Cet objectif suppose le concours de chacun des doyens de section et, en premier lieu, du doyen de la Chambre, qui est le gardien, la mémoire de la jurisprudence. Je dois dire que c'est une grande sécurité pour le président d'être entouré, comme je le suis, de doyens expérimentés.
On a parfois dit de la jurisprudence de la Chambre sociale qu'elle était celle de tel président ou de tel doyen ou doyenne de grande réputation en droit du travail.
En vérité, c'est méconnaître profondément le caractère collectif et collégial de notre travail, auquel nous sommes tous particulièrement attachés. La jurisprudence peut évoluer, mais elle ne saurait être l'œuvre d'un seul. Occuperait-il des fonctions de responsabilité ? Elle survit à ceux qui la font. À la Cour de cassation, un juge qui délibère dispose d'une voix, aucune n'est prépondérante, et la décision rendue l'est par la Cour au nom du peuple français. Le président de la Chambre doit aussi veiller à un équilibre entre spécialisation des magistrats et préservation de l'unité de la Chambre et de la jurisprudence, le droit du travail étant à la fois technique et homogène. Au sein de la Cour, il participe aux échanges sur les modalités de traitement partagé des questions transversales de droit européen, de droit international privé ou encore de procédure. Enfin, il favorise de manière formelle ou informelle les échanges entre spécialistes du droit social au sein de la Chambre ainsi qu'avec les autres chambres. Ces modalités de travail tendent à se développer, ce dont je me réjouis.
Vous évoquiez, Monsieur le Président, le concours du doyen, et je me tourne vers Jean-Guy Huglot. Quelles sont les caractéristiques essentielles de la fonction du doyen ?
Le doyen est en premier lieu une sorte de tuteur informel. En ce sens, il est souvent sollicité par les conseillers rapporteurs au cours de l'étude des questions juridiques posées par le pourvoi pour orienter leurs recherches dans telle ou telle direction et réfléchir avec le rapporteur aux solutions envisageables. Il est en second lieu un réviseur des travaux des conseillers rapporteurs. La vision globale qu'il a nécessairement de la jurisprudence de la Chambre, avec le président de Chambre, l'amène souvent à approfondir encore les travaux du rapporteur et fréquemment à rédiger un nouveau projet d'arrêt. La conférence préparatoire aux audiences, qui réunit le président de la Chambre et les quatre doyens, travaille à partir des orientations rédigées par le doyen de section. Enfin, lors du délibéré, il s'exprime juste après le conseiller rapporteur qui a présenté le litige et les questions dont la Chambre est saisie. Cela confère au doyen la tâche de structurer le délibéré en éclairant les discussions et les solutions possibles et en expliquant pourquoi d'autres voies doivent être considérées comme sans issue et dès lors inutiles à parcourir. Son rôle est également important quant à la rédaction de la décision et sa conformité à l'orthodoxie de la technique de cassation.
Et nous poursuivons la sociale Le Mag, la fabrique de l'arrêt, par le contexte de la construction de la jurisprudence, qui est un processus qui s'insère dans un environnement juridique et institutionnel. Que pouvez-vous nous dire, Monsieur le Président Sommaire, de l'évolution des sources et de la complexification du contentieux ?
D'abord, on assiste à une constitutionnalisation du droit du travail. Témoigne de la place éminente du droit constitutionnel en droit du travail, les questions prioritaires de constitutionnalité soumises à notre Chambre et la mobilisation fréquente des règles et principes constitutionnels notamment issus du préambule de la Constitution de 1946 ou de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Quant au droit européen, il prend une part croissante dans les litiges prud'homaux. Les parties nous y invitent de plus en plus fréquemment par les demandes et les moyens dans les pourvois. En y répondant, ou parfois en les relevant d'office, la Chambre sociale assume ainsi, par sa jurisprudence, la pleine et entière intégration du droit communautaire.
On peut effectivement citer les arrêts du 13 septembre 2023 sur l'acquisition par les salariés en arrêt maladie de congés payés, fondés sur l'effet direct de l'article 31, paragraphe 2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui ont été décryptés dans le podcast thématique numéro 22 de décembre 2023, ou encore la jurisprudence récente sur le temps de trajet des travailleurs itinérants, qui peut, dans certaines circonstances, être qualifié de temps de travail.
De la même façon, les droits fondamentaux consacrés par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sont fréquemment au cœur de nos décisions. Ainsi, une trentaine d'arrêts publiés de la Chambre sociale depuis septembre 2022 font état des droits garantis par la Convention, par exemple la liberté d'expression, la vie privée du salarié ou encore le droit d'accès au juge. Enfin, le droit conventionnel issu de l'Organisation internationale du travail prend aussi une place dans notre jurisprudence. L'organisation ne disposant pas d'une juridiction qui lui est rattachée, le juge national reste le juge naturel de la mise en œuvre des conventions de l'OIT.
Monsieur le doyen Huglot, cette évolution des sources est-elle pareillement observée en droit interne ?
Oui, il est manifeste que la structure du contentieux prud'homal a été modifié sous l'influence des réformes successives en droit du travail. Je songe en particulier à l'instauration de la rupture conventionnelle de licenciement en 2008 et plus récemment à la mise en place de la barémisation de l'indemnisation du licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses avec les ordonnances de septembre 2017. Mais il y a eu aussi d'importantes réformes de procédure, qu'il s'agisse de celles apportées à la procédure prud'homale en première instance et en appel, ou encore de la définition d'un nouveau partage de compétences entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire. Le droit de la négociation collective a aussi récemment connu de grandes transformations. qui conduisent la Cour de cassation à se prononcer sur la valeur normative, sur le régime et sur la portée des conventions collectives et des accords d'entreprise qu'elle interprète comme la loi.
Et au regard de ces évolutions, le traitement des contentieux en est-il rendu plus complexe ?
Indéniablement, la diversification des sources bouleverse la hiérarchie des normes. Leur articulation implique une gymnastique intellectuelle permanente et force l'imagination créatrice des juristes.
Nous venons de voir combien notre réflexion est intellectuellement enrichie par la diversification des sources du droit du travail. Mais en pratique, comment notre chambre se nourrit-elle de la réflexion des autres ? Parlez-nous, Monsieur le Président Sommaire, des rapports de la Chambre avec les autres juridictions et les institutions.
Effectivement, la Chambre sociale entretient des relations régulières et fructueuses avec de nombreux interlocuteurs. D'abord, comme les autres chambres, la Chambre sociale est très attentive au dialogue avec les juridictions du fond. C'est par elle que se construit notre jurisprudence. Notre Chambre entretient aussi des échanges avec la doctrine, au travers notamment de la participation de collègues à de nombreux colloques organisés avec les universités. Enfin, les échanges se développent avec d'autres juridictions suprêmes, notamment avec le Conseil constitutionnel et les juridictions européennes, à l'occasion de stages ou de réunions.
Et nous entretenons aussi un dialogue privilégié avec le Conseil d'État.
Tout à fait. De longue date, des séances de travail périodiques et très riches, portant sur des sujets partagés ou sur des questions frontières avec la juridiction administrative, réunissent les magistrats de notre chambre et des membres des premières et quatrième chambres de la section du contentieux du Conseil d'État. Et n'oublions pas aussi les échanges avec l'administration du travail, que ce soit par le truchement des avocats généraux à l'occasion de l'examen de pourvoi, ou lors de rencontres consacrées à l'instruction ou au suivi de propositions de réformes législatives ou réglementaires suscitées par l'examen de certaines affaires que la Cour propose dans son rapport annuel.
Le troisième thème que nous abordons dans ce podcast, avec nos deux invités, est celui de l'orientation d'un dossier et de la conférence avec lesquelles démarre la fabrique collégiale de l'arrêt. Monsieur le Président, comment les pourvois sont-ils orientés et traités à la Chambre sociale de la Cour de cassation ?
J'aime à dire que les affaires que nous jugeons ne viennent pas de nulle part. La plupart ont été déjà soumises à un juge du premier degré, ainsi qu'à un juge d'appel avant d'arriver jusqu'à nous.
Et ce sont les parties et leurs avocats qui nous questionnent. Nous avons déjà rappelé dans le podcast Fabrique, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation numéro 20 d'octobre 2023, que la Cour de cassation ne construit pas ex nihilo sa jurisprudence.
C'est en cela que la création de la jurisprudence est un processus de sédimentation progressive. C'est en quelque sorte un construit. En somme, elle pousse par le bas la jurisprudence, pour reprendre ici une formule empruntée à un avocat travailliste.
Effectivement, on ne maîtrise pas ce que l'on juge. En revanche, on maîtrise comment on juge. Et de façon très concrète, monsieur le doyen, pouvez-vous nous dire comment est orienté un pourvoi lorsqu'il arrive dans notre chambre ?
C'est à partir de la nomenclature qui a été récemment affinée que les pourvois sont affectés à une des quatre sections de la Chambre sociale. Ensuite, c'est un conseiller référendaire expérimenté qui oriente le mémoire en demande vers un circuit adapté. Selon sa difficulté, l'affaire ira vers un circuit simplifié, ordinaire ou approfondi. Enfin, l'affaire est distribuée à un conseiller rapporteur qui va l'instruire.
À ce stade, pour les affaires les plus complexes, il peut nous arriver d'organiser des séances d'instruction ou encore des groupes de travail.
C'est exact. Les séances d'instruction peuvent être l'occasion de consultations extérieures, notamment par l'intermédiaire du parquet général. Il nous est arrivé aussi de proposer l'audition d'amicus curiae à deux reprises en matière de démocratie sociale dans l'entreprise. Les organisations syndicales et professionnelles représentatives au niveau national ont été invitées à présenter des observations à propos de plusieurs dossiers relatifs aux représentants syndicaux dans les entreprises. Lorsque le rapporteur et l'avocat général ont déposé leurs travaux écrits dans les affaires les plus complexes qui représentent à peu près 10% des dossiers, le pourvoi est alors orienté vers une formation dite de section composée d'environ 12 juges. Voire vers une formation plus solennelle, soit réunissant deux sections de la Chambre sociale, soit même la formation plénière de la Chambre, réunissant les membres les plus anciens des quatre sections. Quant aux autres dossiers, les plus nombreux dont la solution s'impose, ils sont orientés vers des formations restreintes composées de trois juges.
Et alors, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la conférence ?
Il s'agit là d'une institution méconnue que les textes ne réglementent pas. À la Chambre sociale, la conférence réunit 15 jours avant l'audience une formation de section, les quatre doyens et le président, qui, sur la base d'une note établie par le doyen de la section concernée, examine chaque dossier et les travaux préparatoires déposés et donne son avis. La restitution des travaux de la conférence est une phase importante du processus décisionnel, même si l'orientation qu'elle donne ne lie pas la formation de jugement.
On comprend bien que la conférence rend des avis pour les dossiers orientés en formation de section, c'est-à-dire les plus sensibles qui posent notamment des questions nouvelles. Mais pourquoi oriente-t-on certaines affaires vers une formation plénière ?
L'affaire est en principe jugée par la formation plénière de chambre lorsqu'un revirement de jurisprudence est envisagé, comme cela a été récemment le cas dans une affaire relative à la durée du travail des travailleurs itinérants. Parfois même, la Chambre ou le premier président de la Cour de cassation décide du renvoi d'un dossier en assemblée plénière de cour. Cette orientation est décidée lorsqu'une cour d'appel résiste à la jurisprudence de la Chambre après une première cassation ou lorsque la question posée est une question de principe qui intéresse toutes les chambres. Deux exemples récents fournissent une illustration en matière de loyauté de la preuve. Prochainement, toujours à l'initiative de la Chambre sociale, l'Assemblée plénière sera saisie de la délicate question de l'interprétation conforme d'une loi étrangère de transposition d'une directive européenne en matière de discrimination.
Fabriquer un arrêt, c'est répondre aux moyens du pourvoi dont la Cour est saisie. Selon l'adage, la Cour statue sur le moyen, rien que le moyen et tout le moyen. Jean-Guy Huglot, est-ce qu'il arrive à la Chambre de répondre à une question qu'on ne lui a pas posée ?
Cela reste exceptionnel. La Cour peut certes relever d'office un moyen de cassation lorsqu'il est de pur droit, comme elle peut substituer au motif erroné de la décision attaquée un motif de pur droit. Parfois, la Chambre s'autorise aussi à compléter la réponse apportée à un moyen par l'énoncé d'une autre règle de droit ou par une précision. C'est ce qu'on appelle un obiter dictum.
Alors, en comparaison du Conseil d'État, dont les décisions sont parfois très développées, la Cour de cassation pratique-t-elle la motivation enrichie de ses décisions ?
La Chambre sociale pratique la motivation enrichie depuis 2019 et un célèbre arrêt en matière d'esclavage domestique nous ayant conduit à mobiliser plusieurs conventions internationales. Une telle motivation est requise pour toutes les décisions de principe, ainsi que dans l'hypothèse d'un revirement, même si ceux-ci deviennent très rares. La motivation enrichie permet également de rendre des arrêts méthodologiques, typiques de la Chambre sociale, destinés à donner aux justiciables et aux juges du fond le mode d'emploi de la règle de droit. Cela a été le cas s'agissant notamment de la preuve des heures supplémentaires, de la définition du temps de travail effectif en période d'astreinte ou de la recevabilité des preuves obtenues de façon illicite ou déloyale. À l'inverse, dans environ 40% des cas, la Chambre rend des décisions de rejet non spécialement motivées lorsque le moyen est irrecevable ou qu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Nous abordons le cinquième thème et dernier de ce podcast, qui est celui de la portée de la décision rendue. Jean-Michel Sommer, que pouvez-vous nous dire, en votre qualité de président de la Chambre sociale, sur la portée à donner à un arrêt rendu par la Cour de cassation ?
En principe, lorsqu'une cassation est prononcée, l'affaire est à nouveau jugée par une cour d'appel. Cependant, dans chaque dossier, nous nous interrogeons, parfois sur proposition des avocats, toujours dans le respect du principe de la contradiction, sur le point de savoir si un renvoi s'impose ou si nous pouvons donner une solution définitive à l'affaire par une cassation sans renvoi.
S'agissant de la portée jurisprudentielle d'un arrêt, comment peut-on identifier cette portée ?
Sans diffusion des décisions, il n'y a pas de jurisprudence. La Cour de cassation procède désormais à la mise en open data de l'ensemble de ses arrêts. Mais c'est à la Chambre, d'abord, de dire si elle entend donner un signal quant à la portée jurisprudentielle de ses arrêts. À cette fin, elle décide de les publier dans son bulletin, voire, pour les affaires les plus importantes, au rapport annuel de la Cour de cassation. Tous les arrêts publiés sont signalés et diffusés dès leur prononcé sur le site internet de la Cour.
J'ajoute qu'en pratique, la décision de publier un arrêt est prise immédiatement après le délibéré par le président en concertation avec les magistrats de la Chambre. De plus en plus fréquemment, les rapports des rapporteurs et les avis des avocats généraux sont également mis à disposition sur le site de la Cour. Ce devrait être bientôt le cas pour l'ensemble des décisions publiées. Les travaux préparatoires concourent à la compréhension du raisonnement des juges. Des communiqués et des notices explicatives accompagnent parfois ces diffusions.
Et n'oublions pas la lettre de la Chambre sociale, qui rend aussi compte de certains arrêts publiés, assortis de quelques explications. Cette lettre est diffusée sur le site de la Cour de cassation tous les 2 mois environ. Enfin, la Chambre sociale communique sur sa jurisprudence au travers des podcasts qui décryptent certains arrêts, en font une présentation thématique ou, comme aujourd'hui, s'efforcent d'expliquer comment se fabriquent nos arrêts.
Et en guise de dernière question et de conclusion, comment peut-on définir les rapports entre la jurisprudence et la loi ? Lorsque la Chambre sociale de la Cour de cassation construit sa jurisprudence, n'entre-t-elle pas en concurrence avec le législateur, Monsieur le Président ?
En aucun cas, le juge de cassation ne se trouve en position de concurrencer le législateur. La construction d'une jurisprudence se distingue par essence même de la fabrique de la loi, qui est générale et impersonnelle et ne s'appuie pas sur une situation de conflit singulière. Nourrie des faits de la cause et des éléments de contexte de l'affaire, la jurisprudence, même lorsqu'elle comble le silence de la loi, s'inscrit dans une cinétique, dans une dynamique adaptative et évolutive. En revanche, il existe une forme de dialogue entre le Parlement, le gouvernement et le juge d'une Cour suprême.
Et qu'en pensez-vous, monsieur le doyen Huglot ?
Effectivement, au choix du décideur politique, notre jurisprudence est acceptée, voire confirmée, par le législateur. Cela a été le cas de l'article L. 1235-2 du Code du travail, deuxième alinéa, issu des ordonnances de 2017, qui reprend la jurisprudence traditionnelle de la Chambre, selon laquelle la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant au grief invoqué par l'employeur pour justifier la rupture. On peut citer aussi la loi travail de 2016, qui reprend l'ensemble de la jurisprudence de la Chambre sociale sur les clauses de forfait jour. Mais il est des circonstances où la jurisprudence de la Cour de cassation a été désavouée. Je citerai à titre d'exemple le licenciement pour motif économique et notamment l'obligation de recherche de reclassement, y compris dans les filiales à l'étranger, ou en cas d'inaptitude, le respect de l'obligation de reclassement en présence d'une offre de l'employeur conforme à l'avis du médecin du travail.
Absolument, et ce dialogue est sain et fructueux, dès lors qu'il est expliqué et engagé de bonne foi dans un esprit de compréhension et de reconnaissance des prérogatives de chacun. Il est assurément la condition de la préservation de l'état de droit.
C'est la fin de notre podcast. Vous trouverez les références des arrêts cités dans ce podcast La Fabrique de l'Arrêt sur le site internet de la Cour de cassation, rubrique kiosque. Merci à nos 2 invités pour leur participation.
Merci Yann.
Merci Clélia.